J'aimerais parler ce soir sur le péché de Géasi, dans 2 Rois, chapitre 5, et le verset 19. « Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, « Voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. » Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit « Tout va-t-il bien ?» Il répondit « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire « Voici, il vient d'arriver chez moi deux jeunes gens de la montagne d'Éphraïm d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et deux vêtements de rechange. » Naaman dit « Consens à prendre deux talents. » Il le pressa et il serra deux talents d'argent dans deux sacs, donna deux habits de rechange et les fit porter devant Géasi par deux de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il renvoya ses gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître, Élisée, lui dit « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Mais Élisée lui dit « Mon esprit n'était pas absent ?» Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours, et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Amen. On va parler du péché qui est une réalité que nous vivons tous, car la Bible dit que nous sommes tous nés pécheurs et que nous commettons des péchés, que nous le voulions ou pas. Il y a même des péchés inconscients, mais il y a beaucoup de péchés conscients. En fait, le péché, on ne le voit pas, mais il est à l'intérieur de nous comme un cancer de l'âme et il est en train de détruire toutes les personnes pour les propulser vers l'enfer. J'ai connu un homme qui travaillait dans une usine de, où il y avait de la radioactivité, une centrale nucléaire. Et en fait, il m'expliquait que le problème avec les radiations, c'est que vous ne les sentez pas, vous ne les voyez pas. C'est tout à fait inodore, incolore, c'est invisible. Et pourtant, vous pouvez être au contact de radiations sans vous en rendre compte, et de ce fait, vous allez mourir à cause des radiations. Il y a une seule manière de les détecter, c'est d'avoir un compteur spécifique qui est capable de discerner que dans cet endroit, il y a des radiations. Donc, ils ont des combinaisons spéciales, et avec ce compteur, ils savent si c'est contaminé ou non contaminé. Eh bien, le péché, c'est comme une onde invisible qui, comme les radiations, vont détruire l'intérieur des personnes. On ne le voit pas, on ne le sent pas, mais il est déjà à l'œuvre dans les cœurs et il est en train de détruire des personnes pour les amener à la mort. On a l'exemple dans la Bible ici d'un homme qui s'appelle Géasi. Géasi signifie « valet de la vision ». C'est un homme qui a sur sa vie une dimension prophétique, c'est-à-dire qu'il est appelé à voir des choses que les autres ne voient pas. Il va perdre en fait la vision à cause du péché, car ses yeux ont été pour lui une occasion de chute. Il a vu ce que Naaman a apporté. Il avait apporté de l'or, il avait apporté de l'argent, et bien que cet homme, Géasi, est un croyant, il aime l'argent plus que Dieu. Il aime les trésors de ce monde plus que Dieu. Ça passe en premier dans son cœur. Et sa vision est fausse. Car si nous n'avons pas la vision de Christ, la vision de Dieu, en premier, c'est immanquablement l'échec. Jésus a dit de mettre premièrement le royaume et la justice de Dieu. Les chercher en priorité. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Géasi a failli. Il n'a pas considéré comme important que de mettre la bonne vision au bon endroit. Pourtant, sur sa vie, il y avait un appel prophétique. Il est serviteur d'Élisée, oui, c'est dit dans ce texte. Serviteur d'Élisée, c'est-à-dire que il côtoie un homme de Dieu, mais il aurait dû lui être aussi un homme de Dieu. Et ce n'est pas parce que nous côtoyons des croyants qui sont avancés dans la foi, des croyants sincères, que nous-mêmes, nous le devenons automatiquement. Il y a une recherche personnelle. Et béni soit Dieu pour les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui se lèvent. Ce sont pour nous des modèles, ce sont des pères spirituels. Mais la transmission n'est pas automatique. On voit là un serviteur de l'homme de Dieu, mais qui ne devient pas un homme de Dieu. Et qui n'est pas un bon serviteur, qui va finalement chuter par son amour de l'argent, par le péché qui a trouvé une faille dans son cœur et qui a pris racine. Eh oui, quand le péché prend racine, c'est très difficile de s'en débarrasser. Quand on demande pardon rapidement, quand on se repent, alors on peut être libéré. Mais quand les racines sont profondes, quand par exemple c'est devenu un arbre avec des racines, pour déraciner cet arbre, il faut des machines puissantes après, il faut toute une structure. Mais quand c'est une petite plante, on peut l'arracher facilement. Voilà le péché. Plus on tarde à demander pardon, plus il prend racine. Géasi, donc, n'est jamais devenu un homme de Dieu. Il est resté au stade du serviteur de l'homme de Dieu, mais il a été un mauvais serviteur à cause de son péché. Alors, il y a des étapes incontournables quand on veut servir le Seigneur. Comment est-ce que Jésus a procédé avec ses disciples? Premièrement, Jésus a fait en leur présence. Eux, ils observaient et ainsi, ils ont appris la manière de faire de Jésus. Deuxièmement, Jésus les a fait participer. Par exemple, dans certains miracles, il leur a donné des corbeilles et il leur a dit « Allez distribuer le pain, allez distribuer les poissons ». Donc, il les a fait participer dans le miracle. Troisième étape, il leur a demandé d'agir. Il leur a demandé de prier pour les malades. Il leur a demandé de chasser les démons. Mais Jésus était avec eux. Autre étape, il les a envoyés pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus n'était plus avec eux, mais il les a envoyés pour faire les œuvres que Dieu avait fait en Christ. Et c'est ainsi que petit à petit, ils ont développé la foi et ensuite ils revenaient rendre des comptes à Jésus. Nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons vu la gloire de Dieu. Et Jésus leur expliquait ainsi comment avancer. C'est ça la formation pour devenir des hommes et des femmes de Dieu, c'est-à-dire suivre ce que Jésus demande. Deuxième point dans ce texte, les pensées de Géasi sont mauvaises. En tant que chrétiens, nous devons nous entretenir l'esprit de bonnes pensées. Des pensées d'amour, des pensées de reconnaissance, des pensées de foi, mais il y a des pensées secrètes. Et dans ces pensées secrètes, souvent s'infiltre le péché. Il n'en a parlé à personne. Géasi a vu cet or, cet argent. Il n'en a même pas parlé à sa femme. Il n'en a pas parlé, surtout pas à Élisée. Mais il s'est dit en lui-même, il faut que je récupère cet argent. Une pensée secrète que personne ne connaît, mais Dieu voit tout. Jésus dit dans Marc 7, 21, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent toutes les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, et toute chose mauvaise sort du dedans et souille l'homme. Alors qu'est-ce qu'on trouve au-dedans de nous? Il y a aussi des bonnes choses. Il y a par exemple la parole de Dieu. Nous qui croyons, nous avons la parole de Dieu. Un verset dit « Je serre ta parole sur mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Donc la parole, elle doit être dans notre cœur, oui. Mais il n'y a pas que cela. Car parfois, nous laissons des pensées s'infiltrer, comme la pensée du serpent, la pensée du malin. Par exemple, Pierre, qui était pourtant un apôtre, qui avait la parole dans son cœur, qui buvait les paroles de Jésus, qui venait de confesser que Christ est le Fils de Dieu, il est le Sauveur du monde, et il n'y a pas plus grande vérité. Il était vraiment dans la foi, dans l'esprit. Mais quelques instants après, lorsque Christ annonce sa mort et sa résurrection et qu'il va aller à la croix, Pierre le reprend et lui dit « Cela ne t'arrivera jamais. » Jésus le rabroue « Arrière de moi, Satan. » Cette pensée que Pierre a eue à cet instant n'était pas de Dieu, mais du serpent, du malin. Et à ce moment-là, Jésus l'a démasqué. « Non, cette pensée ne vient pas de Dieu. Rejette-la. » Et il veut nous apprendre à prendre des victoires sur ces pensées. Ce sont des pensées du malin, ce sont des pensées du péché, ce sont des pensées qui vont peut-être nous pousser à faire un achat inconsidéré, qui vont nous pousser à prendre une décision qui est folle et qui ne viennent pas de Dieu. Et si nous ne veillons pas, eh bien nous nous retrouvons dans de grandes difficultés, peut-être endettement, peut-être on a pris la mauvaise décision, on s'est mal orienté dans le cas professionnel, Et voilà, on a été influencé par le serpent. Et ça commence dans les pensées. Alors Géasi n'accepte pas du tout l'attitude de son maître. Il a dit, mais mon maître, qu'est-ce qu'il fait ? Il y a Naaman, un Syrien, c'est-à-dire un ennemi du peuple de Dieu, qui vient avec de l'or, avec de l'argent, et mon maître, il le laisse partir sans rien récupérer. Alors on voit que Élisée, lui, il cherche le profit et il ne comprend pas la grâce de Dieu. Géasi, pardon, ne comprend pas la grâce de Dieu. Élisée, lui, a compris qu'il faut faire le bien, qu'il faut bénir, mais Géasi, lui, il ne vit que pour lui-même. En fait, Géasi n'est soumis qu'en apparence. Et quand son maître, Élisée, laisse partir Naaman, eh bien, Géasi va désobéir à son maître et va récupérer l'argent que son maître a laissé partir. Géasi voit toujours Naaman comme un ennemi, alors qu'Élisée le voit comme un homme à qui Dieu a fait grâce. Et voyez, la vision, ça change beaucoup de choses. C'est un petit peu le même cas qui est arrivé à Saul de Tarse. Lorsque cet homme, Saul de Tarse, qui était un persécuteur de l'Église, s'est converti à Christ sur la route de Damas, il a donné entièrement son cœur au Seigneur. Il n'y a pas un seul croyant qui voulait le rencontrer, tellement ils avaient peur encore de lui. Pourtant, c'était un enfant de Dieu, il avait changé de vie, il confessait Jésus. Et même quand Dieu a dépêché Ananias pour aller le voir et prier pour lui, Ananias a dit, mais oh Dieu, mais tu sais quel homme c'est un homme violent, il vient pour persécuter les chrétiens et moi tu m'envoies vers cet homme. Et il ne voulait pas y aller. Et comme quoi on a du mal à comprendre que Dieu peut faire grâce à quelqu'un qui est dans le péché, transformer sa vie et faire de lui une nouvelle créature. Même des chrétiens, ils n'arrivent pas à comprendre. Et Ananias ne voulait pas, jusqu'à temps qu'il obéisse et que Paul soit admis dans l'Église. Ça a été tout un processus. Il a été rejeté à Jérusalem, il a eu du mal à rentrer en connaissance avec Pierre, à commencer à rencontrer des croyants. Tout cela a mis du temps. Eh bien, c'est pareil pour Géasi. Il voit Naaman, pour lui, c'est toujours un ennemi du peuple de Dieu. Il ne croit pas que Dieu peut faire grâce et changer une personne. Tandis qu'Élisée, lui, vit l'esprit de l'Évangile. Enfin, on voit chez Géasi une pensée bien religieuse. Car il est capable d'impliquer l'Éternel dans son affaire. Il dit à un moment donné, « L'Éternel est vivant. J'irai après ce Syrien. » Donc il est capable d'invoquer le nom de Dieu tout en commettant le mal. Ça, c'est ce qu'on appelle la pensée religieuse. Des gens qui sont de surface, mais dont le cœur n'est pas transformé. Alors il veut se donner bonne conscience et se dire, « Mais finalement, Dieu ne permettra pas que ce Syrien s'en aille sans qu'on ait récupéré son or, son argent. » Il mêle Dieu à ses mauvaises affaires. Qu'est-ce qui anime Géasi ? En réalité, c'est un mal profond qui atteint beaucoup d'hommes, c'est l'amour de l'argent. Paul en parle dans 1 Timothée 6, versets 10 et 11. « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et cherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. » Retenez bien cette expression. « Et toi, homme de Dieu. » C'est ce qu'aurait dû être Géasi. C'est ce qu'aurait dû être Géasi. Il aurait dû être un homme de Dieu. Et il n'a jamais été un homme de Dieu. Il est resté un serviteur d'Élisée. Tandis que Élisée était l'homme de Dieu. Mais si il avait été un homme de Dieu, il aurait fui ces choses qui sont l'amour de l'argent, qui est la racine de tous les maux. Non. Il avait quelque chose dans son cœur qui n'était pas de Dieu. Troisième point dans ce texte, il a une énergie pour le péché. Et là, il se précipite, parce que ça va lui demander des efforts. Il va devoir courir, il va devoir aller à la recherche de Naaman qui est parti sur son char et ses chevaux. Il va devoir, en fait, développer toute une énergie pour assouvir sa soif de péché. La Bible dit ici qu'il va courir derrière Naaman. Et oui, le péché nous donne des ailes pour courir, mais pour le mal. Et la Bible nous dit que la vie chrétienne, c'est une course, mais une course dans la bonne direction. Car nous courons vers le but, et nous courons avec joie et persévérance dans la carrière qui nous est ouverte pour aller vers le ciel. Mais la vie du péché, c'est aussi une course, et c'est une course pour le mal. Et les gens qui aiment le péché, ils vont courir pour être satisfaits et obtenir ce que leur cœur désire, leur cœur qui est rempli de péché. Le péché va donner des ailes à Géasi, il va être inventif, il va même imaginer une histoire incroyable. Il va raconter, oui, mais Naaman, en fait, des prophètes très pauvres sont arrivés chez mon maître Élisée que tu viens de quitter, et ils n'ont pas d'argent, et ils n'ont pas de vêtements de rechange, et il fait vraiment pitié pour eux. Il imagine quelque chose de tout à fait faux. Naaman est touché et il dit, mais on ne peut pas laisser ces gens dans cette situation. Prends donc. Et il va mentir. Voilà comment le péché, donc, à cause de l'amour de l'argent, s'est infiltré dans le cœur de cet homme. Il y a des hommes de Dieu qui ont menti, comme par exemple Abraham. Abraham, il a menti à propos de Sarah, qui était son épouse, et il a dit, dis que tu es ma sœur, afin qu'on ne me tue pas à cause de ta beauté. Il avait peur qu'on prenne Sarah pour femme et qu'on le tue pour avoir Sarah. Et donc, il a menti. Et pourtant, c'était un croyant. C'est le père des croyants. Mais il a eu peur. Et à cause de la peur, à cause peut-être de situations difficiles, soit au travail, dans la famille, eh bien, on va inventer une excuse. On va inventer quelque chose de faux. Et c'est un piège dans lequel Abraham s'est mis, car une fois qu'il a mis le main dedans, il s'est lié lui-même. Et comme le roi croyait que c'était sa sœur, il commençait à faire des projets pour elle, pour se marier avec elle. Et il s'est retrouvé dans un piège lui-même. Et il a dû être dévoilé. Et son péché a été démasqué, même par un roi païen, qui a dit, mais ces choses que tu fais ne sont pas droites. Les choses que tu fais là ne sont pas droites. Et donc, pourtant, c'était un croyant. Ce qui montre que bien que même dans la pensée d'un croyant, le péché peut s'infiltrer et la volonté de mentir, de tromper, était là dans Abraham. Alors, on s'arrange avec le péché quelquefois. On ne lutte pas contre le péché. Pourtant, la Bible le dit. Vous n'avez pas encore résisté, lutté jusqu'au sang contre le péché. On s'arrange avec le péché, mais c'est nous qui devenons une proie. C'est un petit peu comme quand on est pris dans une toile d'araignée. La personne qui est dans le péché est prise dans une toile d'araignée, elle va se débattre, mais plus elle se débat, plus elle s'enlise. Et finalement, l'araignée va la dévorer. Et le diable, il agit comme ça, il a semé des pièges dans lesquels plusieurs croyants tombent, ils se débattent dans leur péché, et tant qu'ils ne confessent pas leur péché, ils sont prisonniers de la toile. Et l'araignée, c'est un peu comme le diable qui vient dévorer sa proie. Le processus a commencé dans le cœur de Géasi. Géasi, il feint de refuser en disant « Non, non, un talent suffira. » Et Naaman le presse, « Prends donc deux. » Et il feint de faire la mesure. Mais en fait, il veut l'argent parce qu'il aime ces choses. La tentation est trop forte. Et il n'a pas pu résister. Car quand on est faible spirituellement, quand on est faible moralement, quand on n'a pas de vie de piété, hein, on ne voit pas Géasi prier quelque part. Par contre, on voit Élisée, l'homme de Dieu, se tenir devant Dieu, prier, recevoir la pensée de Dieu. Mais Géasi, ça n'est que le serviteur de l'homme de Dieu. Il n'a pas développé une grande vie de piété. Il ne prie pas vraiment, ou il prie en surface. Il n'a pas de communion avec Dieu. Et donc, il est faible. Quand la tentation vient, qu'est-ce qui nous donne la force contre le péché ? C'est d'être rempli du Seigneur, d'avoir la force de Christ en nous, d'avoir la parole dans notre cœur, de la serrer dans notre cœur. Si nous n'avons pas ces choses, nous serons immanquablement balayés. Il va faire des efforts très importants. J'ai dit que le péché lui donne de l'énergie, car ce sont les serviteurs qui vont porter les deux talents, les talents d'or et d'argent. Mais au bout d'un moment, il va leur dire « retournez vers votre maître », parce qu'il veut continuer tout seul, afin que personne ne sache ce qu'il est en train de faire, car cet or et cet argent, il ne va pas l'amener à Élisée, son maître, il va le cacher dans sa maison. Voilà, le péché va lui donner cette énergie, parce qu'il faut savoir que les talents, ça fait 70 kilos à porter. 70 kilos à transporter jusque chez lui, et cela va lui nécessite pour lui un grand effort. Quelle énergie pour le mal ? Quelle énergie pour le péché ? Il veut que tout soit secret, mais Dieu, pour Dieu, tout est à nu et à découvert devant sa face. Je remarque que certains sont capables d'avoir une énergie extraordinaire pour le mal, pour le péché. Ils ont des idées, ils vont le faire en cachette, ils vont avoir l'énergie pour le faire. Mais quand il s'agit de faire des choses pour Dieu, ils n'ont pas d'énergie. Ils n'ont plus la force. Là, ils sont fatigués. Là, ils n'ont pas d'entrain. Là, ils ne veulent pas être volontaires pour servir. Non, 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 non. On laisse les autres. C'est étonnant. Mais c'est ça aussi le péché. C'est une chaîne qui va donner de la force pour le mal. Mais si vous voulez faire le bien, le péché agit pour vous dire non, 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 non. Tu es fatigué aujourd'hui. Repose-toi. Ne sers pas. Laisse les autres s'engager. Reste tranquille. Voilà ce que fera le péché dans notre vie si nous le laissons se développer. Voilà comment il a terni Géasi, qui était appelé à être un homme de vision et qui a fini misérable, lépreux, loin du Seigneur. Ce que nous devons faire au contraire, ce n'est pas mettre notre énergie dans le péché, mais dans notre énergie à combattre le péché et notre énergie la mettre au service de Dieu. Voilà ce que nous devons faire, ce que Géasi a manqué. Quatrième point, le dévoilement du péché. Car Géasi a caché l'argent dans sa maison. Personne ne le sait, sauf que Dieu sait tout. Et il continue son service comme si de rien n'était. Donc il va dans la présence d'Élisée. Mais immédiatement, alors que Géasi n'a pas prononcé un seul mot, Élisée, qui a reçu la pensée de l'Esprit, interpelle son serviteur. « Géasi, mais d'où viens-tu, Géasi ?» Et là, il ment encore. Vous voyez, je pense que cette question, c'est un petit peu comme celle de Dieu à Adam et Ève. Où étais-tu? Qu'as-tu fait? C'est un petit peu pour amener la personne à reconnaître son péché, à demander pardon pour son péché, à dévoiler son péché. Qu'est-ce que fait Géasi? Tout le contraire. Il ment. Il avait déjà menti à Naaman. Maintenant, un pas de plus, on ment à l'homme de Dieu. Géasi dit à l'homme de Dieu, à Élisée, ton serviteur, c'est-à-dire moi-même, n'est allé ni d'un côté, ni d'un autre. Je n'ai pas bougé de chez moi. C'est faux. Il est capable de tenir tête, mentir devant un serviteur de Dieu, comme s'il était innocent, blanc comme la neige, alors qu'il est coupable. Voyez, on peut mentir à des hommes, mais à Dieu, on ne peut pas mentir. Et le péché a été démasqué, dévoilé. Il aurait dû confesser son péché. C'était peut-être la main tendue de Dieu ici pour qu'il se repente. Et il n'en a pas tenu compte. Ça est arrivé à David lorsqu'il a caché son péché avec Bathsheba, qui était une femme mariée. Il n'avait pas le droit. Et il a fait tout comme si de rien n'était. Il a continué son service. Mais le prophète Nathan est venu de la part de Dieu et a dévoilé son péché. Dieu ne laissera pas le péché impuni. Ce sont des croyants. C'est vrai pour Ananias et Saphira. Qui étaient Ananias et Saphira? C'était deux chrétiens de l'église de Jérusalem. Ce n'étaient pas des païens, des gens du monde ou qui ne connaissent pas Dieu. C'était des vrais chrétiens. Ils prenaient la Sainte Cène, ils étaient là au culte, ils louaient le Seigneur, ils participaient au service de l'église. Et néanmoins, ils avaient développé une double vie. C'est-à-dire qu'ils avaient dit aux apôtres qu'on a vendu ce champ à tel prix, et en réalité, c'était un mensonge. Ils l'avaient vendu à un autre prix. Ils mentaient à Dieu. Et Pierre le reprend en disant, mais ce n'est pas des hommes que tu as menti, c'est à Dieu que tu as menti. Dieu a entendu ton mensonge. Ton péché est dévoilé. Ananias, Saphira ont été immédiatement repris, sanctionnés par Dieu. Dieu les a retranchés. C'est vrai que quand on a péché, il semble que les choses continuent à tourner normalement pendant un temps. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Dieu a vu. Dieu est en colère. D'ailleurs, c'est écrit pour David. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. C'est écrit ça. Dieu a vu ce péché et il l'a laissé. Mais néanmoins, un jour allait arriver la sanction. La sanction a été terrible. L'enfant de David et Bathsheba a été repris. Dieu n'a pas accepté cette situation. Élisée va lui laisser sa chance. Géasi a persévéré dans le mensonge. On fait toujours un péché pour couvrir un péché. Un mensonge pour couvrir un autre mensonge. Et la convoitise. Ça, c'est le cercle vicieux du péché. C'est-à-dire que Géasi n'est plus libre. Il est pieds et poings liés. Il est obligé de vivre dans le mensonge. Et c'est ça le problème. C'est quand un croyant commence à mentir, il continue à vivre dans le mensonge et sa vie spirituelle est en train de s'effondrer. C'est pourquoi Élisée ne va pas laisser Géasi continuer dans la fausseté, mais il va dévoiler sa situation, car Élisée n'a pas une vue simplement humaine, mais il a une vue spirituelle. C'est la vue de l'homme de Dieu. Hébreux 4, 13 dit ceci, « Nulle créature n'est cachée devant lui, c'est-à-dire devant Dieu, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. » Élisée savait cela, mais Géasi a oublié que nous devons rendre des comptes à Dieu pour toutes choses. Donc Élisée le sait, il se tient dans une vie de pureté, il rejette le péché. C'est-à-dire, quand il y a des mauvaises pensées qui viennent, nous devons les rejeter. Quand il y a des images impures, nous devons les rejeter au nom de Jésus. Quand il y a des pensées de mensonge, nous devons les rejeter, être vrai. Cela, c'est notre part. Mais Géasi a fauté. Il y a un prix à payer pour se maintenir dans la pureté, frères et sœurs. Et c'est la part d'Élisée, mais c'est notre part aussi si nous voulons suivre la voie de Christ. Mais Géasi a choisi la voie du serpent, la voie du malin. Et il a été sanctionné, c'est le dernier point. C'est-à-dire que le péché sera toujours sanctionné tôt ou tard. Alors on peut espérer que pour l'instant, Dieu ferme les yeux, il ne se passe rien. Mais un temps viendra où la sanction va tomber. Tant que la repentance n'est pas là, la sanction va tomber. C'est pourquoi il est nécessaire de revenir le plus tôt possible dans une relation avec Dieu, de confesser son péché. Car la confession, c'est la seule voie pour être libéré du péché. Le péché, c'est un lien tellement puissant qu'il n'y a rien qui peut le briser, si ce n'est de confesser nos péchés, c'est-à-dire les avouer à Dieu et demander pardon. Pourquoi Jésus a-t-il versé son sang il y a 2000 ans ? Il a versé son sang afin que nous soyons pardonnés de tous nos péchés. Mais il arrive que nous, chrétiens, nous péchons à nouveau. Eh bien, nous devons confesser nos péchés, ça c'est 1 Jean chapitre 1, verset 8 et 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà pourquoi le sang a été versé. Ce n'est pas seulement pour nous sauver, une fois pour toutes, on est sauvé, racheté, gloire à Dieu, c'est fait, c'est acquis, nous sommes chrétiens nés de nouveau, nous appartenons à Christ. Mais le sang, il est toujours efficace si nous chutons, si nous trébuchons. C'est Jacques qui dit que nous bronchons tous, c'est-à-dire nous trébuchons tous d'une manière ou d'une autre. Et donc, à un moment donné, nous avons la confession. Et nous pouvons venir au pied du Seigneur et nous rappeler que son sang précieux a toujours le pouvoir d'effacer nos péchés. Mais il faut faire cette démarche de demande de pardon et de repentance. Donc, on a vu deux hommes. Le premier, c'est l'homme de Dieu, c'est Élisée qui est resté fidèle. Et il a payé le prix pour avoir une vie pure, une vie droite, une vie qui est une vie de combat et de lutte contre toute mauvaise pensée, attrait de l'argent, attrait des choses du monde. Il a renoncé à ces choses-là pour être libre. C'est ainsi que nous vivons dans la foi, c'est ainsi que nous vivons dans l'espérance. Géasi a choisi l'autre voie, c'est la voie de la facilité, c'est la voie de laisser les penchants, les plaisirs de cette terre nous dominer, l'amour de l'argent, d'avoir, de prendre des décisions sans prier, d'être dans la facilité et de ne pas chercher à lutter quand vient la tentation. Maintenant, la sanction est tombée pour lui, c'est qu'il va recevoir la lèpre qu'avait Naaman. Et il va vivre lépreux jusqu'à la fin de ses jours à cause de son péché. Car la lèpre, c'est souvent une image du péché dans la Bible. Et celui qui aime le péché, finalement, il deviendra lépreux spirituellement. C'est-à-dire que même s'il est chrétien de façade, sa vie spirituelle est déjà entamée d'une lèpre qui fait qu'il n'a plus cette communion, il n'a plus cet amour pour Dieu. Il va se traîner jusqu'à la fin de ses jours. Et ce n'est pas la vie chrétienne, ça. Ce n'est pas la vie des enfants de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Alors, choisissons le chemin étroit et resserré, comme Élisée, de se garder de nos pensées, dans notre cœur, des convoitises, de se garder des pensées du monde. Et refusons cette pensée de Géasi, l'appât de l'argent, l'amour des choses, des biens de ce monde. Mais cherchons au contraire la face de Dieu. On va prier quelques instants. Que Dieu nous accompagne dans sa grâce. Merci encore pour ta présence. Nous savons ce soir que tu es le Dieu de restauration, le Dieu de pardon, le Dieu de miséricorde. Et merci encore, Seigneur, pour ta parole qui nous exhorte à veiller, à ne pas laisser rentrer dans notre esprit toutes sortes de pensées mauvaises, à ne pas nous laisser contaminer par les pensées de péché, de convoitise, d'orgueil de la vie, de choses terrestres, matérielles, qui sont souvent des occasions de chute pour les croyants. Mais nous voulons, au contraire, remplir notre esprit de ta pensée, de ton amour, d'être constamment, Seigneur, veillant et priant, et de nous entretenir les uns les autres par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques, en chantant et célébrant les louanges de notre Dieu. Oui, Jésus, tu as encore un plan merveilleux pour chacun, et je te prie peut-être pour celui ce soir qui est dans cette lutte contre le péché, peut-être qui a cédé à la tentation, mais nous croyons, Seigneur, ce soir que tu tends la main comme tu l'as fait pour Géasi. Nous voulons saisir cette main de grâce par la repentance, par, Seigneur, une demande de pardon, par un renoncement avec le péché, par une prise de position spirituelle dans le nom de Jésus. Je te prie pour que des hommes et des femmes de Dieu se lèvent dans cette Église, qui soient victorieux sur le mal, qui ne laissent pas le péché dominer sur leur vie, mais qui puissent vaincre le mal par le bien, avec l'autorité que tu nous donnes, avec les forces que tu nous donnes. Car nous ne voulons pas finir dans la lèpre spirituelle, nous ne voulons pas, Seigneur, avoir une demi-vie chrétienne ou vivre dans la demi-mesure, mais être des chrétiens remplis du Saint-Esprit, fidèles à ta parole. Oui, raccompagne-nous dans ta paix, garde-nous dans le reste de cette soirée. Dans le nom de Jésus, nous te glorifions. Amen. Amen.